Alors avec le chapitre 6 que nous avons vu hier, nous sommes entrés dans l'aspect peut-être un peu plus pratique, les exhortations plus pratiques de l'apôtre Paul. Alors si vous êtes un peu habitué à lire les épîtres, vous aurez noté qu'il y a souvent une partie un peu plus de doctrine. Dans l'épître aux Corinthiens, il y a plusieurs chapitres sur la doctrine, on pourrait dire que ça va jusqu'au chapitre 11. Et puis après, il y a des chapitres qui sont plus sur le côté pratique, avec des exhortations très 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 concrètes, la partie application. C'est moins net dans l'épître, la seconde aux Corinthiens, parce que justement il y a ce plan en trois parties que j'avais noté au départ, mais quand même plus on avance dans l'épître et plus on entre dans la dimension concrète. Donc c'était le cas pour la purification, la sanctification, on l'a vu au chapitre 6. Et ce sera le cas dans ce chapitre 8, où il va être question de la générosité, de la libéralité. Alors, dans la première partie, l'apôtre Paul a plutôt utilisé, concernant en tout cas le thème qui nous occupe au cours de ces jours-ci, il a plutôt utilisé des images, on en a vu quelques-unes, et puis dans la partie exhortative, c'est plus à partir d'exemples qu'il enseigne. Il y a eu son propre exemple qu'il a donné au chapitre 6, et ici il va être question notamment de l'exemple des chrétiens de Macédoine. Alors je vous invite à écouter ce chapitre que je ne vais pas lire dans sa totalité, je lirai les versets 1 à 15. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà, j'en suis témoin. Spontanément, et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Aussi avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en train. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est donc un simple avis que je vous donne, et c'est ce qui vous convient. En effet, n'avez-vous pas été les premiers, dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet? Achevez donc, à présent, de le réaliser, menez-le à terme, selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don, en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui y sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité, suivant cette parole de l'Écriture, « Celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. » Alors, en commençant à décrire ce que vivent les chrétiens de Macédoine, l'apôtre Paul nous dit qu'ils sont persécutés. C'est vrai que quand on lit le livre des Actes, on s'aperçoit que très tôt, donc le livre des Actes donne le cadre un peu historique de ces épîtres, très tôt, les chrétiens de Macédoine ont été persécutés. Donc il s'agit d'une église, effectivement, une église qui est éprouvée. De plus, l'apôtre Paul nous dit ici qu'ils sont, ils sont pauvres, et même extrêmement pauvres. Donc il n'y a sans doute pas, parmi ces chrétiens qui participent à cette collecte, de riches propriétaires terriens. Pourtant, par la suite, au verset 3, l'apôtre Paul nous dit qu'ils vont donner au-delà de leurs moyens. Et donc, par cet exemple, Paul témoigne, parce qu'il a été témoin lui-même de cela, que dans leur état de dénuement profond, de grande faiblesse, eh bien, Dieu s'est manifesté avec, avec puissance parmi ces chrétiens de Macédoine pour que le trésor de l'Évangile qu'ils portent, reprenant un peu ici l'image du vase d'argile, eh bien, que ce trésor de l'Évangile se traduise par un acte de générosité. Et c'est là qu'on retrouve ce thème de la force dans la faiblesse. Et sans doute que pour bien comprendre ici ce qui se passe, c'est bien de préciser un peu de quelle collecte il s'agit. Ça vient dans le cadre effectivement de cet enseignement que Paul donne aux Corinthiens, mais c'est vrai qu'il change quelque part un peu de sujet, on l'avait noté dans le plan, puisque là il en vient à un sujet très spécifique. Mais ça n'est pas la première fois qu'il parle de cette collecte pour les chrétiens de Jérusalem. Il en parle notamment dans son épître aux Romains, également au début du chapitre 16, de sa première épître aux Corinthiens, donc là aussi concernant les mêmes chrétiens auxquels il s'adresse. Donc c'est une collecte qui est organisée en faveur de chrétiens qui, à Jérusalem, sont dans le besoin. Alors, on ne connaît pas vraiment les raisons exactes de cette collecte. On peut penser que ces chrétiens de Jérusalem, puisqu'ils sont dans le besoin, traversent peut-être une famine. Il faut dire que les famines étaient assez fréquentes dans l'Antiquité. L'une d'entre elles a été prophétisée par Agabus, justement, le prophète Agabus, dans le livre des Actes, justement pour Jérusalem. Sans doute d'ailleurs un peu avant celle ici, puisqu'elle a eu lieu, on pense, aux alentours de 46 à 48. On apprend en tout cas ici au verset 10 que les chrétiens de Corinthe sont parmi les premiers à s'être portés volontaires, prouvant ainsi leur solidarité envers ces chrétiens de Jérusalem, à qui ils doivent quand même beaucoup, un peu comme tous les chrétiens dans le pourtour méditerranéen, puisque l'Église a commencé à Jérusalem. Seulement voilà. Bien qu'ils aient été les premiers à se porter volontaires, il semble que très vite, ils n'aient pas persévéré dans l'action. Ils ont commencé à agir, mais force est de constater au moment où l'apôtre Paul prend sa plume pour leur écrire que d'autres sont en train de donner, en l'occurrence les chrétiens de Macédoine. Et ces chrétiens donnent avec générosité. Et là, il y a déjà, je pense, un premier enseignement pour nous. Ça n'est pas le tout de se porter volontaire. Encore faut-il faire ce qu'on dit. Et quand on fait ce qu'on dit, encore faut-il persévérer dans l'action. Alors, pour les encourager, justement, à persévérer dans cette action dont ils en sont à l'initiative, en quelque sorte, eh bien, l'apôtre Paul choisit de commencer son propos par un exemple. Par un exemple, non pas par une leçon de morale, mais par un exemple. Et c'est très important, parce que l'exemple, c'est quelque chose qui, justement, est vivant. Il ne le fait pas, et on y reviendra, il ne le fait pas par esprit de compétition, pour dire, voilà, ils sont très bien, vous n'êtes pas très bien, essayez d'être mieux, mais plutôt par souci d'émulation. Parce qu'il sait, finalement, qu'un exemple parle souvent beaucoup mieux qu'un discours. Un discours, on peut parler de manière finalement assez théorique, on peut enseigner, mais quand on voit, et je reviens ici à ce que j'ai dit hier, quand on voit un exemple, eh bien on a envie de le suivre, surtout si cet exemple n'est pas fin, si cet exemple est authentique. Et c'est vrai que l'exemple des chrétiens de Macédoine, en tout cas tel que l'apôtre Paul ici en parle, a beaucoup de choses à nous enseigner sur la libéralité. Alors je ne vais pas tout dire sur la question de la générosité, d'autant que je sais qu'il y a un atelier sur ce thème, mais je vous invite à aller à l'atelier, puis je vous invite aussi à lire le chapitre 9, dans lequel l'apôtre Paul aussi va donner beaucoup d'enseignements concrets. Le premier enseignement, je pense, à retenir, c'est que les chrétiens de Macédoine n'ont pas regardé d'abord à eux-mêmes, à leur situation de détresse, hein, que je viens d'évoquer, de rappeler, c'est-à-dire à leur dénuement, leur pauvreté, leur persécution, mais ils ont regardé à Dieu. Sinon, ils n'auraient sans doute rien donné, précisément parce qu'ils sont dans la pauvreté, ils sont dans le dénuement. Mais justement, il est fort probable que leur pauvreté et leur souffrance les auront rendus plus sensibles aux besoins de leurs frères et sœurs à Jérusalem. Et on revient là à cet enseignement premier que j'ai rappelé au tout début quand l'apôtre Paul disait, au chapitre 1, verset 4, hein, que voilà, quand on a traversé une épreuve, on est plus sensible à ceux qui traversent la même épreuve parce qu'on a expérimenté la consolation de Dieu. Et sans doute que c'est le cas ici pour ces chrétiens de Macédoine. Du coup, ils sont plus à même de considérer d'abord les besoins des autres en faisant confiance à Dieu pour leurs propres besoins. Ainsi, loin d'être un obstacle, cette faiblesse, cette vulnérabilité, hein, concernant leur extrême pauvreté, s'est transformée en une formidable force, celle de l'amour, de la compassion. Si on regarde à soi-même, on aura toujours de bonnes raisons de ne pas s'engager dans l'œuvre de Dieu. Et ici, je parle de l'œuvre de Dieu au sens large, que ce soit dans le domaine du don, que ce soit dans le domaine du service, hein, on peut donner de l'argent, on peut donner du temps. On aura toujours une bonne excuse, hein, « j'ai pas assez de moyens, je suis trop pauvre, j'ai pas assez de temps, je suis trop occupé, je suis trop jeune, j'ai d'autres préoccupations, etc. » Et celui qui ne regarde qu'à lui-même, à ses limites, à ses propres besoins, à sa faiblesse, aura sans doute du mal à entrer dans la mission, le service auquel le Seigneur l'appelle. Comme les chrétiens de Corinthe qui s'étaient portés volontaires sans persévérer dans l'action, il risque fort, celui qui s'engage en regardant en arrière ou en regardant à lui-même, eh bien il risque fort d'abandonner aussi vite qu'il s'est porté volontaire. Vous savez, c'est un peu ce qui se passe quand, après avoir dit oui, on dit mais. Je veux bien. Mais, alors le mais, ça peut être encore une fois, hein, mais je n'ai pas le moyen, mais je suis trop occupé, mais voilà. Et quand on ajoute un mais à son oui, le mais a de fortes chances de l'emporter sur le oui. Et il faut toujours se méfier que notre oui soit oui. C'est d'ailleurs la parole que Jésus lui-même nous dit, hein, que votre oui soit oui. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Le second enseignement que nous pouvons retirer de l'exemple des chrétiens de Macédoine, c'est qu'ils vivent de la grâce, sous la grâce. C'est ce que Paul ici nous dit au tout début du chapitre. Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Donc avant de parler même de leur don, eh bien la première chose que l'apôtre Paul met en avant, c'est la grâce. La générosité des chrétiens de Macédoine est avant tout l'expression de la grâce de Dieu. En tout cas, c'est ce que Paul ici cherche à mettre en avant. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle participer à cette offrande représente pour eux un vrai privilège et non pas une contrainte. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de prendre part à ce ministère de solidarité en faveur des saints. Alors ici, j'ai l'impression qu'on croit rêver. On croit rêver. Parce que généralement, celui qui supplie, ce n'est pas tellement celui qui donne. C'est celui qui est dans le besoin. Et ici, on a l'impression que les rôles se sont quelque peu renversés. C'est que les chrétiens de Macédoine ont su abandonner la logique du donnant-donnant qui nous colle tant à la peau, qui construit les relations dans notre société, et encore plus dans la société économique dans laquelle nous sommes, mais ceux de tout temps. Et ils sont entrés dans une autre logique, ils ont intégré un autre paradigme. Ils sont entrés dans une toute autre démarche, qui n'est plus la démarche du donnant-donnant, c'est une démarche qui finalement est assez étrangère à la nôtre et qui ne nous est pas du tout commune. Hein. C'est la démarche de la grâce. C'est la démarche de la grâce. Et cette démarche de la grâce, dans tous les domaines de notre vie, est une démarche qui va à l'encontre de celle qui nous est commune. D'ailleurs, Paul choisit un vocabulaire bien particulier pour rendre compte de la manière dont les chrétiens de Macédoine, dont les chrétiens de Macédoine ont participé justement à cette offrande. Ici, j'ai essayé de les mettre un peu en évidence. Vous avez le mot grâce, vous avez aussi le mot. Suivant les versions, ici c'est le même mot, c'est le mot qui est traduit par prendre part ou solidarité. En fait, en grec, c'est le mot koinonia que vous avez peut-être parfois entendu. C'est un terme un peu dans le patois de Canaan. Souvent, on dit que c'est un terme pour parler de la communion fraternelle. Vous avez aussi, mais ce qui est souvent d'ailleurs dans le domaine du concret, du pratique, notamment d'ailleurs financier. Dans la Bible, vous avez aussi le mot ministère-service, hein, le mot diaconat, bref, des termes que l'apôtre Paul va souvent utiliser pour parler de notre relation avec Dieu. C'est comme s'il voulait montrer qu'il y a une profonde continuité entre la foi que les chrétiens de Macédoine professent et puis l'action pour leur don. Donc une profonde continuité, on pourrait dire, entre la parole et les actes, ce sur quoi on a toujours un peu de mal à être d'accord, hein, sur cette continuité entre les deux. Leur don généreux est l'expression concrète de leur foi, de leur confiance en Dieu. Le troisième enseignement que nous pouvons retirer de l'exemple des chrétiens de Macédoine, c'est leur consécration au Seigneur. Être consacré au Seigneur. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Paul souligne ici que leur don en faveur des chrétiens de Macédoine découle de l'offrande première de leur vie au Seigneur. Et vous notez bien ici l'ordre sur lequel ici Paul insiste. Il y a un ordre. D'abord, ils se sont donnés à Dieu, puis ils se sont engagés à notre service. Autrement dit, on pourrait dire que les chrétiens de Macédoine ne mettent pas la charrue avant les bœufs. Leur don généreux est l'expression de leur consécration au Seigneur. Et c'est cette consécration qui va donner sens à leur service, à leur libéralité, à leur générosité. Ça va être, je dirais, en quelque sorte, le fer de lance, la motivation. C'est là que se trouve leur motivation. Non pas dans l'acte lui-même de donner et donc de se déposséder, mais dans l'attachement au Seigneur. Et n'est-ce pas finalement ce qui peut nous préserver de tout orgueil spirituel ? On tombe facilement dans ce travers quand on sert le Seigneur, quand on donne au Seigneur, quand on fait des choses pour le Seigneur. C'est un peu la parabole du pharisien et du publicain, hein, que Jésus nous dit. Hein, le pharisien qui dit au Seigneur, oh, « Seigneur, je suis vraiment quelqu'un de bien, parce que moi je donne la dîme, je demande de tous mes revenus, etc. Je jeûne plusieurs fois la semaine. » Et puis il y a le publicain qui dit, qui se bat la coupe, dit « Seigneur, aie pitié de moi. Hein, » Et c'est lui qui rentrera dans le royaume de Dieu. Parce que l'autre ne s'est pas saisi de la grâce. Et quand on est dans le domaine du don, de la générosité, c'est un élément qu'il faut vraiment avoir présent à l'esprit pour ne pas tomber dans des travers. C'est important de se poser les bonnes questions, celles qui donneront sens à notre engagement. Et ici, je m'adresse à tous ceux qui, en tant que GBUciens, auront aussi à s'engager sur les campus, parce que cet engagement, encore une fois, peut être dans le domaine matériel, mais il peut être aussi dans le domaine du service. Hein. Qu'est-ce qui est le premier dans notre vie? Est-ce que c'est notre service, ce que nous faisons, ou est-ce que c'est Dieu, autrement dit notre relation à Dieu? Et c'est ce matin, en équipe, on se disait, mais finalement, on n'a pas voulu, mais le thème « La force dans la faiblesse » correspond bien au DAB, aux discussions autour de la Bible, sur la vie de prière. Et je crois que c'est ce que Dieu a voulu aussi pour chacun de nous, parce que c'est là où il y a l'essentiel. C'est ce sur quoi je dois vraiment construire ma vie. En tout cas, ce sur quoi je dois recentrer ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, qui ne se fait pas tout seul. Si c'est le Christ, et donc notre attachement au Christ qui est au centre, alors ce que nous ferons pour lui ne sera pas vécu comme une contrainte, mais comme un sujet de reconnaissance au Seigneur. C'est là où il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est là où on a très vite fait, on a très vite tendance à faire le contraire. Il y a des choses à faire, je vais le faire, et on oublie un peu ce qui est au centre. Alors c'est vrai que, dit comme ça, ce matin, devant vous, on a le temps, facile. Mais dans la vie de tous les jours, là, quand vous allez reprendre un peu les choses, moi le premier d'ailleurs, ça va être plus compliqué. On a tous un problème avec ça, comment gérer nos priorités. C'est pas pour rien si Jésus nous exhorte en disant « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » C'est un peu mon mot d'ordre pour l'année. Nous, on a l'habitude, dans le passage de l'année, au 1er janvier, à tirer un verset. Et puis ça a été mon verset. Un verset que je connais bien. Et j'essaie de me le répéter, alors j'essaie de me le répéter tous les jours, et ça me fait du bien. Parce qu'au moins, ça m'oblige à me dire « Oui, c'est important d'être au clair » sur les priorités. Replacer sans cesse Christ au centre, eh bien, ça nous invite, en tout cas moi, ça m'invite à faire le ménage régulièrement dans ma vie. Parce qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent prendre la priorité. Tout un tas de préoccupations qui peuvent prendre la priorité. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dépréoccuper du reste, mais voilà, que Christ reste bien au centre. Et c'est important, parce que c'est là qu'est notre force. C'est animé d'une joie débordante que les Macédoniens donnent généreusement jusqu'à la limite de leurs moyens, parfois même au-delà, et même spontanément, c'est-à-dire sans contrainte, nous dit Paul au verset 3. Pourquoi ? Eh bien justement parce que, comme on vient de le voir, ils ont su d'abord accueillir la grâce, et ils en vivent, ils font confiance au Seigneur qui pourvoit à leurs besoins, et enfin ils se sont donnés au Seigneur qui les aime et prend soin d'eux. Du coup, ils donnent avec joie. C'est-à-dire que leur don est l'expression de leur reconnaissance envers le Seigneur. C'est le quatrième ici enseignement que nous pouvons tirer de l'exemple des chrétiens de Macédoine. Et c'est bien là l'essentiel. Paul le dira au chapitre 9, verset 7, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne beaucoup. Vous connaissez le verset, hein ? Non ? Je vois que certains disent non. Il y en a encore qui écoutent. Hein. Dieu aime celui qui donne avec joie. Généralement, on connaît bien ce verset parce qu'on le cite dans les églises avant les offrandes, parce que c'est un verset qui nous rappelle que l'important, c'est de donner avec joie. Et c'est vrai que quand nous donnons pour l'œuvre de Dieu, eh bien, c'est bien de savoir pourquoi on donne, avec quelle motivation, car au fond, c'est ce qui compte. On ne donne pas parce que Dieu en a besoin, au fond, tout lui appartient. L'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. On ne devrait pas non plus donner parce qu'il le faut, parce qu'on nous a dit qu'il le faut. Et justement, l'apôtre Paul fera très attention de ne pas ici donner un ordre, on y reviendra. On donne pourquoi ? Eh bien, là, l'exemple des chrétiens de Macédoine nous le dit. On donne pour exprimer notre reconnaissance au Seigneur. On donne parce qu'on veut dire à Dieu merci, lui dire qu'on l'aime parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon envers nous. Et quand on donne avec cet état d'esprit, quand on donne avec joie, ben on va donner généreusement. Quand on aime quelqu'un, on est généreux. Ce qui importe, c'est d'être sincère, c'est d'être authentique dans sa foi, c'est d'être authentique dans son geste, c'est d'être authentique dans son service. C'est la raison pour laquelle Paul choisit précisément de partager un exemple qui témoigne de cette sincérité et se refuse ici de donner un ordre, comme il le dit donc au verset 8. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Et finalement, c'est bien la question qui nous est posée à nous qui lisons aujourd'hui cette épître. Qu'en est-il de l'authenticité de mon amour pour Dieu ? Et c'est sans doute pas pour rien si l'apôtre Paul va poursuivre quelques versets plus loin par un autre exemple, qui est l'exemple de Jésus-Christ. Lui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et en filigrane de ce verset, il y a ce beau passage, d'ailleurs, je trouvais intéressant parce qu'il a été lu ce matin, ce beau passage de Philippiens 2, comme quoi là aussi Dieu fait bien les choses, qui nous rappelle que Dieu s'est abaissé. Alors, je ne vais pas le relire puisqu'on l'a lu ce matin et que vous étiez, je pense, tous là et que voilà, vous l'avez à l'écran, où Dieu s'est abaissé, il s'est dépouillé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au moment où le Christ s'est incarné, parce que c'est de cela dont il est question, hein, c'est qu'il a accepté de ne pas utiliser ses attributs divins. Et il ne s'est pas contenté de s'abaisser en prenant notre finitude, notre vulnérabilité, notre fragilité, en assumant pleinement notre humanité. Non, il s'est abaissé, et Paul insiste là-dessus, jusqu'à donner sa vie sur la croix, le bois maudit, comme un malfaiteur. Et ne nous y trompons pas, hein, sur la croix, ce ne sont pas les clous, hein, qui l'ont retenu. Il aurait très bien pu se détacher quand on lui a dit « mais si tu étais le Fils de Dieu », là aussi c'est sans doute une attaque de l'adversaire, hein, délivre-toi de toi-même, et il aurait pu le faire sans aucun problème. Ce ne sont pas les clous, c'est son amour pour nous. C'est par amour qu'il est allé jusqu'au bout. Il ne s'est pas contenté de dire « ah bah tiens, j'ai une bonne idée, je vais les sauver », et puis jusqu'au dernier moment, non. Il a dit oui, mais il n'y avait pas de mais après. Quand il a dit oui, c'est un oui, il est allé jusqu'au bout. Et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a élevé. Et cette réalité de la grâce, de cet amour, nous bouscule tout le temps dans notre vie. Quand on veut véritablement, je dirais, la faire sienne, elle nous bouscule parce qu'elle nous invite à considérer notre relation non seulement aux autres, mais aussi avec ce que nous possédons, avec ce qui fait notre vie, de manière totalement différente. C'est la raison pour laquelle Paul prend soin ou choisit, après l'exemple des Macédoniens, de nous parler de l'exemple du Christ. Alors c'est vrai que quand on lit ce passage sur la libéralité des deux chapitres, on peut être surpris, parce que nous on a tendance à bien séparer les choses. Il y a d'un côté le côté matériel, hein, et puis ça, voilà, et puis de l'autre côté la vie spirituelle. On est très grec dans ce point de vue, hein. On est très dans la philosophie grecque, c'est-à-dire on est héritier en fait, hein, de la philosophie grecque qui consiste à bien séparer les choses. Or dans la Bible, ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Dans la Bible, il y a une profonde continuité entre notre relation à Dieu et notre relation avec tout le reste. Si Dieu ne règne pas sur la relation que nous entretenons avec nos biens matériels, ou s'il ne règne pas sur la relation que nous entretenons avec les autres, il y a de fortes chances qu'il ne règne pas vraiment, voire peut-être même pas du tout. Alors dans votre livret, je vous ai mis cette phrase que je voulais vous laisser. Si l'essence, c'est-à-dire le cœur, hein, de l'évangile se manifeste dans l'incarnation, on vient de voir un peu ce passage dans Philippiens 2, l'incarnation du Christ qui se donne pour nous à la croix, eh bien la radicalité de l'évangile, hein, ce côté, je dirais, qui va jusqu'au bout, se manifeste dans une vie qui se donne pour son prochain, qui se donne avec générosité dans le domaine matériel, mais pas que. Et ça ne se fait pas sans un certain brisement intérieur, sans une certaine remise en question, une remise en question quotidienne. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de vivre ça. Et vous qui êtes de famille chrétienne, qui avez entendu ça depuis votre enfance, c'est aussi mon cas, hein, c'est pas simple de s'en saisir tous les jours. C'est parfois plus simple pour la personne qui le découvre un peu comme Saul sur le chemin de Damas, et encore, là aussi, il faut pouvoir s'en souvenir chaque jour. Seul ce brisement nous permet de passer de la parole aux actes. Mais encore faut-il accepter d'être vulnérable. Et ça non plus, c'est pas simple. La force dans la faiblesse, c'est aussi accepter notre vulnérabilité. C.S. Lewis, un auteur, je pense que vous connaissez, l'auteur de Narnia notamment, dans un de ses livres, Les Quatre Amours, dit ceci: aimer, c'est être vulnérable. Si vous voulez être sûr de conserver votre cœur intact, ne le donnez à personne, pas même à un animal. Emballez-le soigneusement dans les hobbies, dans des petits luxes. Évitez-lui toute tâche. Enfermez-le en sécurité dans le seuil de votre égoïsme. On y est tellement en sécurité. Pas de lumière, pas de mouvement, pas d'air. Là au moins, votre cœur ne court pas le risque d'être brisé. Et je pense que quelque part, il n'avait pas tort. Quel sera l'exemple des Corinthiens ? C'est, je pense, la question que l'apôtre Paul, finalement, veut laisser aux chrétiens de Corinthe au travers de l'exemple qu'il mentionne des chrétiens de Macédoine. Après l'exemple des chrétiens de Macédoine et celui du Christ, eh bien, Paul exhorte les chrétiens de Corinthe à être à leur tour généreux, mais sans leur donner un ordre, seulement un avis. L'apôtre les renvoie à leur propre initiative, quand ils ont décidé eux-mêmes de lancer cette collecte, car ils sont libres et responsables. On est tous libres et responsables devant Dieu. Responsable, ça veut dire en capacité de répondre. C'est ça ce que veut dire le mot responsable. Dans le mot responsable, vous avez le mot répondre. Et on ne répond pas seulement par notre bouche, on répond aussi par nos actes. Donner à l'œuvre de Dieu, c'est être responsable, ça fait partie du don. Et il y a cette petite anecdote qui vient à l'esprit de ce pasteur qui faisait des baptêmes, et puis un jour il voit quelqu'un pour se faire baptiser, et puis il avait, alors, peut-être dans un milieu où on se faisait baptiser, je pars un peu vite, et puis en tout cas, il avait encore son portefeuille. Alors, il ne voulait pas se mouiller. Il a sorti son portefeuille et le pasteur qui connaissait un peu lui a dit « Non, tu peux garder ton portefeuille pour te faire baptiser. » C'est-à-dire qu'on se fait baptiser entièrement dans tous les domaines de notre vie. Une petite anecdote en passant. L'apôtre donc les renvoie à leur propre initiative. L'essentiel pour Paul est que leur don soit fait sans contrainte, de bon cœur, en fonction de leurs possibilités. C'est ce qu'il dit dans les versets qui suivent, dans les versets 11 et 12 que vous avez ici à l'écran. Paul ne cherche pas à déshabiller Jacques pour habiller Pierre, comme il le dit au verset 13. Et si l'exemple des Macédoniens a de quoi impressionner et même surprendre, eh bien l'enseignement que Paul donne ici, dans ces versets qui suivent, corrige ce qu'il pourrait y avoir d'excessif dans ce témoignage des Macédoniens. En fait, le témoignage des Macédoniens, il est simple. Paul donne un témoignage, simplement. Il dit, voilà ce que j'ai vu. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'il enseigne. Il enseigne quelque chose, on pourrait dire, d'un peu plus équilibré, ou en tout cas de moins excessif. Paul ne s'attend pas à ce que les Corinthiens en fassent autant. En citant l'exemple des chrétiens de Macédoine, il ne cherche pas à les culpabiliser, mais simplement à les interroger. Il dit, voilà ce qui se passe. Regardez comment eux vivent leur foi. Vont-ils compter sur la fidélité de Dieu, comme les Macédoniens semblent l'avoir fait ? C'est la question que Paul leur pose, notamment en référence à la manne, à l'épisode de la manne. L'épisode de la manne était un épisode où les Israélites se devaient de faire confiance à Dieu. Vous savez, ils récupéraient chaque matin la manne, mais ils ne pouvaient pas en récupérer pour plusieurs jours, sauf la veille du sabbat, parce que sinon elle devenait infecte. Et il y en avait suffisamment pour chacun. Il fallait donc faire confiance, compter sur la fidélité de Dieu, compter sur ses promesses. Et c'est cette même confiance que l'apôtre Paul attend des Corinthiens et que je crois Dieu attend dans notre vie de tous les jours, à commencer par cette confiance dans les biens matériels. Dans les biens matériels. Alors je reconnais que c'est un sujet sensible. Je n'ai pas voulu, moi, le traiter directement, uniquement dans le domaine de la générosité, du don matériel, même si c'est vraiment ce sur quoi l'apôtre Paul ici insiste. Et peut-être le voir de manière plus large, au niveau du service. Ceci dit, la Bible nous parle très souvent de l'argent, pas que dans ce chapitre, pas que dans ces deux chapitres. Il y a plus de 2000 références dans la Bible au bien matériel sous différentes formes. Beaucoup plus finalement qu'il n'y a de référence, on va dire, directe à la foi ou au salut qui tourne autour de 200. Alors ça ne veut pas dire que l'argent est plus important ou les biens matériels, les possessions sont plus importantes dans la Bible que le reste. Mais ça veut dire que c'est une zone test pour notre foi. C'est une zone test pour notre foi, pour chacun d'entre nous. Le rapport que nous avons avec l'argent. Quel est notre rapport avec l'argent ? Quel est notre rapport avec notre compte en banque, avec nos économies? Allons-nous faire confiance à Dieu? Faire confiance à Dieu dans le domaine de l'argent, des biens matériels, en se montrant généreux, car c'est bien là ce dont il est question, ça s'apprend déjà quand on a peu, comme l'enseigne l'exemple des Macédoniens. Car le jour où on a davantage, c'est bien plus facile de le mettre en pratique. Sinon, croyez-moi, c'est bien plus difficile. C'est bien plus difficile quand on a beaucoup de données, quand on n'a jamais appris à donner quand on avait peu. Alors, j'ai conscience d'avoir pas répondu à toutes les questions qui pourraient y avoir sous-jacentes. Je ne sais pas si l'atelier a encore lieu cet après-midi sur la générosité. Mais si vous avez des questions de manière plus concrète, pratique, parce qu'il y a tout un tas de questions qui peuvent tourner autour de cela, eh bien, je vous invite à poursuivre avec l'atelier qui va suivre. Mais j'aimerais vous laisser simplement avec cette question d'application, parce qu'au fond, la question que l'apôtre Paul pose aux chrétiens de Corinthe, eh bien, c'est la question qui nous pose à chacun d'entre nous. Quel sera notre propre exemple ?